Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur les fins dernières avec donc ce livre du Père Philippe-Marie Margelidon, père dominicain, professeur à l'Université de théologie de Toulouse. Donc nous avons vu la semaine dernière la réalité aussi de cette fin dernière de notre vie qui passe par la mort, hein, la mort comme lieu aussi de la rencontre avec le Christ et avec le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Hein. C'est ce que nous célébrons bien sûr dans le temps de Pâques, hein, mais comme chrétien, eh bien, ce n'est pas seulement dans un temps liturgique, mais tout au long de notre vie que nous professons cette victoire du Christ sur la mort. Si nous pouvons parler de fin dernière de notre vie sur la terre, eh bien, c'est parce que nous avons l'espérance du ciel, l'espérance, eh bien, de la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement par le sacrifice du Christ. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle aussi que, pour entrer dans la vie éternelle, il faut aussi nous unir au Christ dans sa mort, hein, comme le dit saint Paul. Mort avec le Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et puis, il y a la troisième étape que nous dit aussi saint Paul. Hein, nous sommes ressuscités avec lui pour partager sa gloire. Hein, c'est-à-dire, il nous invite à participer à sa gloire. Alors sa gloire, c'est déjà l'état glorieux de l'âme, c'est-à-dire quand elle entre dans la vision béatifique de Dieu, ce qu'on appelle le paradis, ou la vision de Dieu. C'est déjà une glorification de l'âme, mais cette glorification appelle aussi à la glorification du corps tout entier. Et nous avons vu que la personne humaine est un ensemble d'esprit et de matière, de corps et d'âme, et nous ne pouvons pas dissocier, quand on parle de personne humaine, le corps et l'esprit. Et donc la mort vient, c'est cette réalité qui vient briser cette union substantielle de l'âme et du corps. Le corps, à sa finitude, comme matière, et il est voué à la corruption, alors que l'âme, elle, est immortelle, et elle retourne donc auprès de Dieu. Alors, poursuivons sur ces thèmes. Et donc, pour voir, prendre davantage conscience sur ce moment important de la mort. Comment, comme chrétiens, nous pouvons regarder cette réalité de la mort. Et c'est important pour nous. Pour nous aujourd'hui, bien sûr, il y a un saint évêque qui disait que ignorer les fins dernières, ignorer ces réalités, pour nous, c'est de la folie. C'est de la folie parce que c'est vrai, si nous perdons cela de vue, comme dit saint Paul lui-même, il reprend ce passage aussi dans le livre d'Isaïe, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Si notre vie n'est que pour la terre, il n'y a plus d'espérance. Et donc la vie chrétienne, justement, elle nous fait déjà, dès maintenant, entrer dans la vie éternelle. Alors revenons donc sur ces thèmes, la mort et le salut des chrétiens, mais aussi même des non-chrétiens. Parce que la mort, elle concerne aussi bien sûr tout homme. Et nous serons jugés au moment de notre mort, le jugement particulier. Tout homme sera jugé par le Christ. La mort scelle l'orientation définitive d'une vie, pour ou contre Dieu. Pour tout homme, le refus coupable, explicite et non rétracté du vrai Dieu, l'apostasie consentie de la vraie religion en connaissance de cause, l'abandon coupable de la foi, la mort dans l'état de péché mortel malgré les grâces actuelles d'appel à la conversion, conduisent à l'enfer, à la damnation éternelle. Que l'homme puisse se perdre définitivement est une proposition incontestable, que nous ne pouvons pas nier. C'est une possibilité qui est impossible de nier. Mais l'inverse est vrai. Tout homme peut être sauvé, puisque Dieu veut réellement le salut de tous les hommes. Tout homme religieux, religion non chrétienne ou non, s'il ne repousse pas définitivement les prévenances de la grâce, est sauvé par le Christ. Nous avons dit qu'il ne fallait pas concevoir la grâce de la conversion au terme d'une vie toute éloignée de Dieu sur un mode spécial, miraculeux. Mais il est possible, et plus fréquent que nous ne pouvons le supposer, qu'il y ait des conversions quasi miraculeuses, soudaines, inattendues, à cause des grands mérites des saints et des amis de Dieu, comme dit le cardinal Journet. Ainsi, beaucoup de grands pécheurs sont convertis au dernier instant de leur vie. Des êtres qui auront vécu loin de Dieu pourront, tout au dernier moment, passer à Dieu sans qu'on n'en sache rien. Peut-être auront-ils paru refuser la grâce. Pour obtenir la vie éternelle, il est nécessaire d'avoir la foi qui est au-delà de la raison. Saint Thomas admet que l'extension du contenu de la foi peut varier selon les époques. Le credo minimal explicite requis concerne deux articles fondamentaux, existence et providence de Dieu. Tout homme religieux, de religion donc non chrétienne, même, eh bien, s'il ne repousse pas définitivement les prévenances de la grâce, peut être sauvé par le Christ. Mais toujours, bien sûr, par la médiation du Christ. Précisons que pour être sauvé, il faut être trouvé en état de grâce, c'est-à-dire avoir la foi, au moins implicite en Dieu, une foi animée par l'amour de Dieu. Saint Thomas pense que Dieu procure à tous le secours divin indispensable au salut, puisque Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que tous soient sauvés. Et que ceci doit être tenu pour très certain. Dieu veut de volonté universelle antécédente, c'est-à-dire avant tout mérite ou démérite, le salut de tous les hommes. Par conséquent, il leur procure d'une manière inconnue et invisible les moyens nécessaires pour le salut. La grâce qui seule sauve incorpore au Christ et à l'unique Église du Christ. Cependant, l'Église rappelle que le baptême, sacrement de la foi, est la voie ordinaire et nécessaire pour obtenir le salut. S'il faut distinguer les nécessités du baptême pour le salut et de la nécessité d'appartenir à l'Église pour être sauvé, il reste que nul ne peut être sauvé sans le Christ et en dehors de l'appartenance à l'unique Église du Christ. Cette appartenance par la grâce, la foi et l'amour est soit explicite, soit implicite, visible ou invisible. Donc, c'est cette fameuse phrase qui a fait aussi couler beaucoup d'encre chez les théologiens, « Hors de l'Église, point de salut ». Oui, en effet, on peut dire « Hors de l'Église du Christ, point de salut », parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par le Christ. Et le Christ a confié à son Église les moyens du salut, que sont en particulier les sacrements. Nous ne pouvons pas évoquer non plus le difficile problème des enfants morts sans baptême. Il n'a pas trouvé de solution définitive. Est-ce possible? Peut-on baptiser des enfants qui sont morts sans baptême? Quoi qu'il en soit, l'Église n'enseigne plus la doctrine des limbes. Elle mise sur la volonté divine universelle de salut et sur la communion des saints à laquelle ses enfants sont comme suspendus. Le baptême sacramentel est nécessaire, certes, parce qu'il est le moyen ordinaire par lequel quelqu'un prend part aux effets bénéfices de la mort et de la résurrection du Christ. Il faut toutefois tenir compte de l'affirmation selon laquelle, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'est ici donc l'affirmation de la constitution Gaudium et Spes numéro 22 du Concile Vatican II. Quant à la doctrine des limbes, elle n'est pas à rejeter, mais elle est bel et bien dépassée. Avant de voir en quoi elle peut être dépassée, il convient d'examiner ce qu'elle met en lumière. De soi, les petits-enfants morts sans baptême ne peuvent accéder au royaume, au ciel donc, mais ils ne peuvent pas davantage être châtiés pour un péché qu'ils n'ont pas commis. Sous la pression de cette double certitude, les théologiens, après saint Augustin, ont peu à peu élaboré l'hypothèse des limbes, comme on les appelle, désignant par là un état intermédiaire de bonheur parfait, mais naturel, qui serait celui de ses enfants. Cette idée, déjà communément admise et enseignée par les théologiens du Moyen-Âge, a été communément enseignée dans l'Église jusqu'au Concile Vatican II. Tout en regardant le baptême sacramentel comme nécessaire dans la mesure où il est la voie ordinaire établie par le Christ pour se configurer les hommes, l'Église n'a jamais enseigné la nécessité absolue du baptême sacramentel pour le salut. La nécessité du baptême n'est pas absolue. Ce qui est absolu est la nécessité pour les hommes de se configurer au Christ lui-même. Tout salut vient de lui et donc, en un sens, par l'Église. Tout homme est dès sa conception ordonné au salut par le Christ. C'est ainsi que tout enfant, dès le sein de sa mère, est pris dans la prière de l'Église et met pour lui un votum baptismi, un vœu de baptême, qui n'est pas sans efficacité devant Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi le baptême de désir. L'Église prie pour eux parce qu'elle peut espérer qu'il y a un chemin de salut possible pour eux. Le document conclut qu'il y a des raisons objectives d'admettre leur salut, mais ces raisons ne sont pas des fondements pour une connaissance certaine. Ce qui nous a été révélé, c'est que la voie ordinaire du salut passe par le sacrement du baptême. Aucune des considérations énoncées ci-dessus, donc qu'on vient de citer, ne devrait être comprise comme une atténuation de la nécessité du baptême, ni comme une justification pour retarder l'administration du sacrement. Au contraire, ces considérations, nous aident aussi à affirmer aussi notre foi et notre espérance que Dieu sauve ses enfants lorsque nous n'avons pas été même capables de faire ce que nous aurions voulu faire pour eux, à savoir de les baptiser dans la foi et dans la vie de l'Église. Il reste toutefois bien sûr que la mort pour tout homme décide du salut de quelque manière que ce soit. Personne n'est sauvé avant sa mort malgré lui. Il l'est par le Christ et dans le Christ. Dieu est juge et le seul juge du salut de tous les hommes. Et c'est au Christ qu'il a remis son jugement. Alors justement, parlons de ce jugement. L'Église donc parle d'un double jugement. Un jugement à la fois particulier, donc à la mort de tout homme, nous comparaîtrons devant le Christ, ce qu'on appelle le jugement particulier, et le jugement dernier, ou le jugement universel, donc à la fin des temps, qui marquera aussi l'entrée dans la parousie, c'est-à-dire la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus, qui viendra pour juger les vivants et les morts, comme nous le confessons dans le Credo. Nous devrons donc tous comparaître au tribunal du Christ, juge de toute chair et de l'histoire humaine. Le jugement de Dieu lui a été remis par le Père. C'est le Fils, le Christ, qui, Dieu et homme, prononcera la sentence judiciaire ultime par laquelle il nous récompensera ou nous condamnera. Nous attendons le jour du Seigneur. Par le jour du Seigneur, on entend le jour du jugement, c'est-à-dire le jour où chacun sort de son corps. Ce qui doit en effet se passer pour tous au jour du jugement général s'accomplit pour chacun au jour de sa mort, dit saint Jérôme. Ce jugement s'accomplit pour chacun dans sa mort. Parler donc de jugement, c'est évoquer d'abord le jugement dernier. Tout sera jugé, sauf pour certains. Condamné pour d'autres, le jugement dernier, depuis le Moyen-Âge, a suscité l'imagination des artistes. Tympan du jugement dernier de Conques et la prédication aussi des prêtres. Le jugement général et final est précédé du jugement particulier qui en est l'anticipation, le premier acte. Le Christ glorieux prononcera ce jugement ultime en raison duquel tous les hommes obtiendront gloire ou châtiment d'après la sentence du Christ. Si Dieu est le Créateur et le Maître, et s'il est le Seigneur, il est aussi le Juge. Son jugement est saint, juste et infaillible. Le Credo le confesse, précisant que le jugement appartient au Christ. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, 42. Le Père juge par son Fils, à qui, glorieux, tout est soumis au ciel et sur la terre. Le Christ reviendra, apparaîtra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Les vivants, en leur conférant en fonction de leur mérite, tout ce qui leur revient et qu'il veut en justice et par miséricorde leur accorder, à savoir la joie et la jouissance des biens éternels dans la patrie bienheureuse. Les morts, car s'ils rétribuent chacun selon ses mérites et ses démérites, c'est soit pour le ciel, soit pour l'enfer. Or, le Christ ressuscité a reçu de son Père le pouvoir royal et judiciaire, le jugement de Dieu et le jugement du Christ, à qui le Père a tout remis. Selon l'évangile de saint Jean, chapitre 5, verset 22, le Père donc ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Christ est juge à la fois comme Dieu et comme homme. Ce pouvoir lui appartient comme Fils, à la fois en raison de sa personne divine, de sa dignité de tête de l'Église, de la plénitude de sa grâce capitale et de son mérite infini. L'autorité judiciaire est appropriée au Père, car il est principe du Fils. Cependant, elle est dite du Fils en propre, comme norme du jugement en tant que quart et sagesse du Père. Le Père juge les hommes par le Fils comme raison de jugement, et par ou dans l'esprit. Il ne fait pas de doute alors que c'est sous la forme d'un jugement général à la fin des temps que l'Écriture nous parle du jugement de Dieu. Ce jugement eschatologique s'exerce déjà, cependant, lorsque, du premier avènement du Verbe, par la seule présence de Jésus au milieu des hommes, et surtout par sa croix et sa résurrection. Pour nous, en ces temps qui sont les derniers, ce jugement est à la fois passé. Il a eu lieu sur la croix par laquelle le Christ a mis fin au monde du péché. Il est actuellement présent car le monde qui gît sous le pouvoir de Satan est jugé et condamné à sa perte. Il est encore à venir puisque l'histoire n'est pas encore terminée. Le jugement eschatologique prend ainsi deux formes, le jugement particulier pour chacun aussitôt après la mort et le jugement dernier pour tous à la fin des temps. On trouve des indices du jugement particulier aussi dans les évangiles, par exemple à la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, la parole de Jésus au larron pénitent. Dans la tradition de l'Église, il faut noter les prières pour les défunts et le culte des martyrs. Cependant, c'est seulement au XVe siècle que le pape Benoît XII, dans la Constitution Benedictus Deus en 1336, a défini que les âmes ayant quitté ce monde reçoivent sans tarder la rétribution, soit la vision bienheureuse précédée des purifications du purgatoire ou la damnation éternelle. Cette définition dogmatique ne met pas en cause la croyance unanime attestée du jugement dernier ou du jugement général, lorsque tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de ce qu'ils auront fait, en bien ou en mal, durant leur vie temporelle et corporelle, selon le passage bien connu de Matthieu 25 du jugement dernier. Cette définition nouvelle ne signifie pas que l'idée d'un jugement particulier était chose nouvelle dans l'Église. C'est une vérité qui a été donc élaborée peu à peu pour atteindre au XIVe siècle sa maturation. Plus largement, l'idée d'une eschatologie intermédiaire entre la mort et la résurrection s'est elle-même lentement aussi définie dans le complexe de la Révélation. Quand l'Église affirme que le jugement de Dieu portera sur tout ce qui a été dit ou fait, c'est toujours la personne qui est jugée, car c'est elle qui s'est engagée par ses actes, libres, bons ou mauvais, à l'égard de Dieu. Ces actes libres intérieurs et extérieurs, l'acte intérieur s'exprime et se réalise dans l'acte extérieur, qualifient moralement et spirituellement la personne. À la différence du jugement humain, qui n'atteint la personne qu'à travers ses actes, remontant des œuvres à la personne même qui agit, Dieu atteint d'abord le cœur, c'est-à-dire l'intime de la personne, et à partir de là, ses actes et ses œuvres. Dieu est le juge d'abord des cœurs et des reins. Il juge donc, comme on dit, les intentions profondes du cœur, et non pas seulement les actes extérieurs. Que se passe-t-il lors d'une conversion ? Lorsque le pécheur se convertit, il se sépare de ses actes passés et de ses œuvres. D'une certaine manière, ils ne sont plus siens, car son moi présent les répudie. Il tombe dans l'abîme de la miséricorde, dans ce que l'Écriture appelle l'oubli de Dieu. Ils ne sont plus jugés. Inversement, s'ils se détournent de Dieu, ce sont ses bonnes œuvres qui se séparent de lui et qui ne sont plus siennes. Dieu juge le pécheur à l'instant où il quitte cette vie, au premier instant même où son âme est séparée du corps, tel qu'il s'est fait, tel qu'il est, désormais pour toujours fixé dans son choix essentiel d'adhésion à Dieu ou de refus. Nul n'échappera au jugement de Dieu et chacun sera jugé sur ce qu'il aura fait de sa vie et des dons de Dieu en bien ou en mal. Ce jugement réfracté dans l'âme, ne sera pas extérieur à celui qui en est l'objet. C'est pourquoi il ne sera en aucune manière contesté par qui que ce soit. Dieu sera proclamé juste par tous, par ceux qui auront été trouvés justes, comme par ceux qui auront été condamnés à cause de leur endurcissement dans le péché. C'est donc que le jugement particulier s'accomplira selon la vérité même qui émane de Dieu. Vérité qui ne pourra plus être contestée. Le jugement particulier qui suit immédiatement la mort est un jugement tout intérieur, où la conscience dégagée de toutes ses ignorances et de ses dissimulations sera un pur écho du jugement de Dieu, comme donc une grande mise en lumière en vérité de toute notre vie. C'est pour l'âme individuelle la reconnaissance de son état personnel par le moyen d'une illumination divine qui lui permet de juger elle-même de cet état. Ça, c'est très important, donc, parce que nous voyons que ce jugement, en même temps qu'il sera prononcé par Dieu, mais il sautera aussi à nos yeux. Sous l'action d'une lumière surnaturelle qui l'investit, l'âme voit d'un seul regard, instantanément, d'une manière inévitable, claire et sans possibilité d'erreur, toute sa vie morale et spirituelle passée, l'état intérieur dans lequel elle se trouve, et comprend intuitivement qu'elle reçoit alors la juste et décisive sanction de ses actes. La conscience qui a été durant la vie l'organe de la loi de Dieu est, après la mort, l'organe du jugement de Dieu. Ce jugement intérieur, sous l'action illuminatrice de Dieu, a sa mesure et sa norme en Dieu lui-même pour que la connaissance que l'homme doit avoir alors de son état réponde pleinement à la vérité, spécialement quand il s'agit d'un homme qui meurt endurci dans le péché. Il ne s'agit pas d'un pur auto-jugement, car de cette lumière surnaturelle, Dieu en est la cause efficiente. En ce sens, c'est un hétéro-jugement, un jugement qui se passe à l'intérieur de la conscience et différent du jugement de la conscience par lequel l'homme se juge lui-même durant sa vie terrestre. Là, c'est donc une lumière extérieure qui viendra faire la vérité en nous. Dieu entre donc dans le jugement particulier de deux manières. D'abord, comme cause première de la motion illuminatrice, c'est lui donc qui donne une lumière, et ensuite, comme mesure et règle formelle du jugement de conscience. L'homme est alors comme son propre juge parce qu'il se trouve contraint de se juger lui-même par la vérité toute puissante de Dieu. Le jugement particulier ne doit pas être conçu comme une espèce de bilan d'actifs et de passifs de la vie dont on ferait le compte. Il ne s'agit pas de rendre ses comptes comme on le fait en comptabilité. En réalité, ce qui spécifie le jugement particulier, c'est la personne, dans la totalité de son histoire, constituée par ce qu'elle est devenue au terme de sa vie, selon ses mérites et ses démérites. Cette histoire souvent sinueuse, Dieu seul peut en discerner très exactement l'orientation fondamentale et le sens. Son jugement est miséricordieux et juste, mais nul ne sait ce qu'il est. C'est pourquoi nous nous en remettons toujours avec confiance et tremblement à sa justice et à sa douce piété. Et donc, c'est cela aussi qui procure en nous ce qu'on appelle la sainte crainte de Dieu. Voilà, nous terminons ainsi cette émission pour cette semaine. Et nous verrons donc la semaine prochaine cette deuxième forme du jugement qui aura lieu donc à la fin des temps, ce jugement universel ou le jugement général. Au revoir à vous tous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.